Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à vous les curieux, bienvenue sur RTL pour le meilleur des meilleurs moments de l'émission. Vous allez bien Thomas?
Mais oui, ça va très bien.
Et bonne fête.
Mais pourquoi bonne fête?
Bah c'est la Saint-Hugues.
Très drôle, mon prénom c'est Thomas. C'est tout ce que vous avez trouvé comme poisson d'avril.
C'est bête, je vous ai appelé Hugues toute l'année, c'est dommage. Moi bon, je sais, c'est nul, j'ai honte.
Ouais, ça fait un peu flop, vous voyez, comme ces flops dont on va parler dans un instant. Mais juste après, on évoquera les préjugés dont sont victimes certains animaux.
Bah oui, est-ce que toucher un crapaud donne des boutons? Est-ce qu'il faut vraiment s'immobiliser quand on voit une guêpe ou taper du pied pour faire fuir les serpents? Les réponses dans la seconde partie de l'émission.
Et donc pour commencer, on ressort du placard les plus grands bides de l'histoire du cinéma.
La curiosité est un vilain défaut.
Le 13e guerrier. Antonio Banderas, dans un film de John McTiernan, réalisateur de Piège de cristal.
RTL.
À deux bateaux contre un, ça devrait vous rassurer. C'est une occasion unique de conquérir enfin une vraie fortune et de nous venger de Dog une fois pour toutes.
Martin Scorsese vous invite à vivre une incroyable aventure.
Arrêtez cet enfant, attrapez-le.
Hugo Cabret.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des extraits des bandes annonces du 13e guerrier, L'île aux pirates, Hugo Cabret signé Scorsese, s'il vous plaît. On raconte les échecs récents et anciens du cinéma français et américain avec Thierry Chaise, Jack Huston, Morgan Freeman. Vous l'avez vu ce Ben-Hur version 2016
hein? Oui. Mes yeux s'en souviennent encore.
Hein. Ah, c'est
ça,
vrai,
pique,
ça,
les
ça
yeux.
Pique, ça,
c'est
ça.
Sympa.
Les
pourquoi
yeux qui
il y a plein de couleurs?
Il y a beaucoup de couleurs. Il faut savoir que ce réalisateur, c'est un grand spécialiste pour moi de jeux vidéo, sauf qu'on n'a pas les commandes, donc c'est un petit peu gênant. Il avait quand même commis, par exemple, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, où on apprenait
Vrai.
Mais au moins, c'était drôle. Voilà. Ce qui manque là, j'ai l'impression, ou alors je ne l'ai pas perçu, et c'est le second degré.
Alors, on va écouter tout de suite un extrait de la bande-annonce de Ben-Hur.
Combien de temps es-tu resté esclave?
5 ans.
Comment t'appelles-tu?
Ben-Hur. Ma famille était l'une des plus respectées de Jérusalem, mais nous avons été trahis. Par mon propre frère.
Mais ça là, tu sais qu'on n'a rien fait de mal.
Rome veut du sang. Crucifiez-les.
Le monde dans lequel tu vis appartient à Rome. Leurs lois, leur pouvoir.
Je ne laisserai pas mon frère impuni, je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait.
Il y a un moyen. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire.
Thierry Chaise, la scène marquante du film, forcément, c'est la course de chars. Gros moyen quand même. Elle a coûté un petit peu d'argent, cette scène.
Elle a coûté beaucoup d'argent. On a refait le stade, en gros, où elle a lieu. On la filme avec les caméras les plus perfectionnées possibles pour que ce soit le plus impressionnant possible. Il y a une débauche de moyens incroyable, c'est-à-dire que on peut dire, le spectateur qui y va en a pour son argent. Mais malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, les effets spéciaux n'impressionnent finalement plus personne, tellement il y en a, y compris dans les structures plus petites. Et on a beau mettre beaucoup d'argent pour épater, il faut aujourd'hui aller encore plus loin.
Oui, puis il faut arriver à la hauteur de la première version, 1959. Film, forcément, d'aujourd'hui, souffre de la comparaison.
Oui, ça, c'est toujours la volonté hollywoodienne sur des films plus récents. On refait SOS Fantôme, on refait Independence Day. Et puis, on se met à refaire des classiques. Alors, ça a un avantage, c'est que les gens savent de quoi ça parle. Donc, les studios se disent, au moins, les gens iront. Le gros inconvénient, c'est en effet qu'on a quand même le précédent en tête, qui était aussi, à l'époque, il avait coûté beaucoup d'argent.
C'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma américain, c'est ça?
Finalement, si on compare en dollars de l'époque, c'est comme s'il coûtait plus de 100 millions de dollars et tout. Sauf qu'à l'arrivée, il y avait eu beaucoup d'Oscars. Et il y avait eu du succès.
Alors,
que celui-là.
On va continuer de dérouler quelques histoires de flop, comme ça, quelques histoires de bide. Tiens, par exemple, je suis sûr que vous vous souvenez pas de ce film, c'est normal, il n'a pas été vu par grand monde. On écoute un extrait de la bande-annonce de 47 Ronin.
Ceux qui t'ont vendu comme esclave se sont emparés de nos terres.
Des montagnes de cadavres ne sauraient nous arrêter.
Nous croyons que tu es le seul à pouvoir nous aider. L'ennemi se tient prêt.
Je sais ce que vous êtes.
Tu n'en as aucune idée.
Je n'ai pas peur de vous.
Tu devrais, pourtant.
Ta vie nous appartient.
J'adore les grosses voix des versions françaises, des bandes-annonces, des films américains. C'est toujours un peu ridicule quand même. Faut beaucoup de graves. On doit en rajouter un petit peu au mixage.
Donc c'est 47 Ronin français, c'est ça?
C'est 47
ça
Ronin.
Ça raconte quoi?
Alors
ça,
47 Ronin, pour résumer, on est dans le Japon féodal. Oui. Et c'est la vengeance de 47 samouraïs qui contre un seigneur de guerre qui a tué leur maître et a fait d'eux, les a obligés à errer comme ça à travers le Japon. Donc c'est un film de vengeance. Le vrai problème, c'est que le réalisateur voulait faire vraiment un film très dans la culture japonaise, inspiré parfois même des dessins animés de Miyazaki,
oui,
avec en VO, voilà. Une VO japonaise, on n'a que des acteurs japonais à part Keanu Reeves, et les studios, eux, voulaient faire un film mainstream et un peu de combat et tout ça.
Ça, c'est un des points communs qu'on va peut-être trouver à différents bides flops dont on parle. Thierry Chaise, il y a des divergences entre le réal et le studio.
Voilà, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, contrairement en France, le final cut, qui est le montage final, normalement, aux États-Unis, c'est le producteur qui l'a, alors qu'en France, c'est le réalisateur. Mmh. Et donc, comme c'est le producteur, lorsque le réalisateur a fini son film et sur la table de montage, et qu'il veut livrer sa version, quelqu'un lui dit « C'est sympa, mon gars, mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut, donc tu vas te remettre au travail jusqu'à ce que tu obtiennes ce qu'on veut, quitte à ce qu'il soit remplacé et viré. »
Bon, en
et...
attendant, Keanu Reeves, il a payé un petit peu sa carrière. Enfin, il a disparu pendant quelques années.
Alors, déjà, ça faisait 10 ans Matrix 3, donc ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Et c'est vrai qu'à partir de là, un film qui a coûté cher, où il est la seule personne connue et où personne, même dès le premier jour, y va, fait que depuis, on le voit plutôt dans les secondes. On l'a vu dans The Neon Demon de Vinnie Griffin à Cannes, mais il a le troisième ou quatrième rôle.
Donc un bide peut casser la carrière d'un acteur.
Totalement.
Alors en France aussi, il y a eu quelques bides mémorables. Giorgino, Monsieur N, Les Clés de la Bagnole, ça ne vous dit rien? C'est normal, il n'y a pas grand monde qui...
J'ai adoré Les Clés de la Bagnole.
Bah oui, mais vous n'étiez pas un peu toute seule
dans
la salle.
Les Clés de Bagnole d'ailleurs.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de découvrir le destin malheureux des plus grands flops de l'histoire du cinéma. Thierry Chaise, des films français qui font un bide, il y en a eu beaucoup. Quel est le pire ou l'un des pires pour vous?
Il y a quelque chose qui est assez symptomatique, c'était le bide à l'époque de Giorgino.
Alors rappelez-nous ce que c'est,
alors,
parce que
Giorgio, ça nous a un peu échappé. On est pour milieu des années 90, ouais. Mylène Farmer sort d'un album qui s'appelle L'Autre. C'est vraiment la plus grande star de la chanson, mmh. Et elle va faire un film, son premier passage au cinéma, sous la direction de Laurent Boutonnat, le réalisateur de tous ses clips.
Ah, ça commence bien.
Qui est un réalisateur talentueux. Les clips de Mylène Farmer sont magnifiques, ils font l'événement à chaque fois.
Très coquin.
En plus, c'est quasiment des courts-métrages.
Vous avez retenu, vous aussi.
De 10 minutes, un quart d'heure.
Il y a 10 ans, j'étais un peu choquée et à la fois émoustillée.
Vous laissez regarder ça, va dire quoi.
Voilà,
je vais appeler vos parents tout de suite.
L'émission change.
Bon, on a un duo qui fonctionne.
Du coup, comme ça fonctionne, on leur donne 80 millions de francs, 12 millions d'euros. À l'époque, faire ce film qui se passe en 1918, qui est une histoire de quelqu'un qui était médecin sur le front, qui est démobilisé, qui arrive dans un village où les enfants ont disparu. Puisque c'est Mylène Farmer, il n'y a personne d'autre de connu à côté. Et on s'est dit, malgré tout, Mylène Farmer, le réalisateur de tous ces clips, et ça fait un bide, ça fait 70 000 entrées au final. C'est un bide énorme. C'est-à-dire que lorsqu'on investit ça, il faut au moins faire 700 ou 800 000 entrées.
Oui, parce que c'est toujours ça, pardon Thierry Chaise. On peut juger d'un bide en fonction du budget aussi. C'est-à-dire
bien
un
sûr.
Film qui a quasiment rien coûté, s'il fait 100 000 entrées, il est rentable, bravo.
Et même parfois à 30 000 entrées.
Bien sûr. Donc là, 12 millions, l'équivalent de 12 000 euros, 70 000 entrées, c'est évidemment, il y a un problème économique.
Et ce qui est frappant, c'est que ça participe à tous les gens, en fait, que puisqu'on peut les voir gratuitement, dans les clips ou à la télé, ils font des bides. Patrick Sébastien, lorsqu'il a fait son film Thème, ça n'a pas marché. Jean-Marie Bigard, lorsqu'il a fait son film, ça n'a pas marché. Johnny Hallyday, quand il est acteur, les gens n'y vont pas parce que les gens sont prêts à payer pour les voir sur scène, par exemple, mais pas dans un film où ils savent qu'ils n'auront pas le contrôle.
Mais ça, c'était nul, Giorgino. Enfin, je veux dire, c'était comme un grand clip sans scénario. Moi, je l'ai pas vu. Hein.
C'était 3 heures, donc c'était très très long. Et en fait, ce qui marche en un quart d'heure 20 minutes, c'était très beau. Il y avait tout ce côté baroque qu'on peut aimer chez Laurent Boutonnat. Simplement, en 3 heures, ça ne tient pas. L'histoire ne tient pas, et on sent bien qu'il y a eu quelque chose où là, pour le coup, il y a pas de contrôle. On parlait tout à l'heure des producteurs américains qui parfois imposent un contrôle trop fort. Parfois, il faudrait qu'en France, les réalisateurs se laissent imposer un petit peu un contrôle un peu plus fort. Il faudrait trouver un juste milieu. Là, ils se sont fait plaisir. Ouais. Et même les fans hardcore de Mylène Farmer,
il y en a.
Mais 69 000 entrées, quand on sait combien ces spectacles réunissent de monde, c'est incroyable.
Quelles conséquences de cet échec cuisant pour le duo Laurent Boutonnat, Mylène Farmer?
Alors, ils ont continué.
Ils ont perdu de l'argent d'abord ou
est-ce que c'est eux? Sans doute en partie. Ouais. Ce qui est clair, c'est que Laurent Boutonnat n'a pas refait de film avant Jacou le Croquant 10 ans après, ouais, qui n'a toujours pas marché. Et Mylène Farmer, on ne l'a jamais revue au cinéma. Il y a eu des tentatives. Je pense qu'elle garde ce côté mystérieux qui fait que des gens ont encore eu envie. Simplement, il y a un moment, des financiers qui disent attendez, au moment où, au sommet de sa gloire, son album, c'était jamais aussi, j'ai bien vendu, ça ne marche pas. Pourquoi aujourd'hui on l'emploierait?
Et le film, on pouvait le voir dans les années qui ont suivi. Je crois que Laurent Boutonnat a essayé d'empêcher ça.
Oui, je pense que Laurent Boutonnat, c'est un contrôle fric, pour parler bien français. C'est quelqu'un qui contrôle absolument tout. Et je pense que c'est vexant, c'est extrêmement vexant de voir que personne n'a envie d'y aller le premier jour. Au moins, les gens n'auraient pas aimé. Mais ça veut dire qu'il n'y a même pas une curiosité pour y aller. Et donc, c'est vrai que c'est un film qui, à mon avis, que certains ont dû récupérer en cassette vidéo et qui doit valoir cher, mais il faut encore avoir un magnétoscope.
Autre film français au destin douloureux qui doit exister aussi en VHS, Monsieur N, il est sorti en 2002, réalisé par Antoine Decaune.
Je suis venu, monsieur, vous présenter mes devoirs.
J'ai examiné vos états de service, on y voit des revers, échecs à Naples, débâcle à Capri. Comment fait-on pour sortir victorieux d'autant de défaites?
Comment sort-on vaincu d'autant de victoires?
Peut-on savoir à quel général vous parlez?
La seule légitimité que mon gouvernement vous reconnaisse est celle de général.
Monsieur le gouverneur, j'étais officier à l'âge de 16 ans et 15 jours. Il n'y a pas une chose qui trotte dans la tête d'un militaire, bon ou mauvais, que je ne sache avant qu'il en prenne lui-même conscience. Aussi, rassurez-vous, je ne serai jamais bien loin. Vous me trouverez ici, dans votre tête.
Monsieur N, film réalisé par Antoine Decaune, qui joue Napoléon? Et que raconte le film?
Alors c'est Philippe Torreton qui joue Napoléon, donc on peut parler d'un très beau casting parce qu'il fait un formidable Napoléon.
Et c'est une star déjà à l'époque, en 2002.
Exactement, non, mais il a eu le capitaine Conan et c'est un formidable acteur. Et il fait un Napoléon vraiment impressionnant et ça raconte l'exil à Sainte-Hélène de Napoléon et les questions qui se posent sur est-ce que Napoléon est véritablement mort à Sainte-Hélène. Donc c'est un film historique en effet. Et qui n'a pas connu, et là on commence à venir sur les choses un peu injustes, le succès qu'il méritait.
C'est-à-dire que dès sa sortie, il n'y a pas de curiosité des Français, on ne va pas le voir?
Non, ça a fait un démarrage assez moyen, il terminera à 116 000 entrées. Pour comparaison, le précédent film d'Antoine Decaune, Les Morsures de l'Aube, avait fait 425 000 et avait coûté beaucoup moins d'argent.
Et alors, c'est difficile, hein, le cinéma, vous êtes mieux placé que nous pour le dire. C'est un art difficile et c'est aussi un business. Quelles conséquences l'échec de ce film en costume a eu dans les années qu'on suivit? Est-ce que d'un seul coup, il y avait plus aucun film en costume, comme si les producteurs avaient la trouille?
C'est un petit peu ça. Si on se souvient bien, dans les années 80-90, le cinéma français avait marché sur deux jambes, je dirais. Les comédies et puis les films en costume. Alors, c'était Camille Claudel, c'était Cyrano de Bergerac, c'était Le Hussard sur le toit. C'est vrai que sur les comédies, finalement, elles sont normalement moins chères et il y a un retour sur investissement plus rapide. Un film en costume, ça coûte cher, quoi qu'il arrive. Le décor, les costumes, et donc c'est un coût. Et donc quand on commence à percevoir que les films marchent de moins en moins bien et qu'un film comme ça, qui est très bonne tenue avec un bon acteur, ne trouve pas son public, ça n'incite personne à y aller. Et donc les conséquences ne sont pas juste pour Antoine Decaune ou pour Philippe Torreton, mais sont plus généralement pour des réalisateurs qui ont cette ambition-là et à qui on va dire plutôt le faire à la télé.
Faisons des films tout nus, pas de costume, voilà. Bon, c'est une idée.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Vous êtes dingue!
Je glisse!
C'est fini, oui.
RTL.
Souviens-toi. Premier à finir, dernier à mourir.
Soyez fiers d'être curieux.
Nous sommes en guerre, John Carter. Ensuite, ce sera la Terre. Veux-tu rester et combattre pour Helium?
Allez, monte.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous raconte les grands bits de l'histoire. L'emmerdeur, John Carter, Ben-Hur. Et bien sûr, d'autres films, par exemple celui de Michael Cimino. Nous sommes avec Thierry Chaise, critique ciné, qui nous fait découvrir ces films au placard. Mais ils ont quand même des histoires passionnantes. Michael Cimino qui réalise La Porte du Paradis. Donc on est en 1980, qu'est-ce qu'il raconte ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu?
Alors ça raconte en fait l'Ouest américain dans le Wyoming à la fin du 19e siècle. Un épisode assez noir de l'histoire américaine où des immigrés venus d'Europe de l'Est avaient été dénoncés et quasiment mis à l'écart. Donc c'est un western extrêmement noir. On n'est pas là dans le... C'est pas les Indiens et les cow-boys et c'est pas la grandeur de l'Amérique. C'est un film sur l'histoire noire des États-Unis. Et évidemment, ça ne plaît pas forcément au public.
Ça ne plaît pas ou ça fait polémique?
Alors, c'est un peu tout. Ça fait polémique, mais ça n'a même pas le temps de faire polémique. C'est-à-dire que c'est une grande fresque. C'est une grande fresque et il faut savoir donc que Cimino sortait de Voyage au bout de l'enfer, film sur la guerre du Vietnam, qui déjà ne brossait pas le pays dans le sens du poil, mais qui avait pour lui d'avoir eu un succès, d'avoir eu des Oscars et tout. Donc il a un peu...
Donc il a la confiance des studios quand même, quand il se lance dans ce projet.
Il a un peu carte blanche. Ouais. Et là encore, comme c'est un film d'époque, il faut de l'argent. comme on est avec Cimino, on peut dire que Cimino, c'est quelqu'un qui fait, justement, si vous vous trompez sur son titre, je pense qu'il va vous en vouloir beaucoup, puisque c'est la minutie incarnée. On fait minimum 50 prises, on construit une rue entière, ça va pas, on la déconstruit, on la reconstruit. Au bout de... Normalement, les 5 premiers jours de tournage ont été faits, par exemple, en 9 jours. Donc, 4 jours de retard,
c'est
dès
dingue.
La première semaine.
Pour une journée de tournage, on prend un jour de retard,
voilà,
quasiment.
Exactement. Quoi. Donc, on laisse aller, parce que c'est Cimino, et puis à un moment, le budget explose, et puis ça marche pas, et donc c'est terrible.
Mais les acteurs, ils réagissent comment sur ce tournage de La Porte du Paradis ?
Ben, on a le temps de faire un autre film, hein, par exemple.
Il n'a pas fait tourner autre
John
chose.
John Hurt était parti tourner, et puis pas n'importe quoi, il est parti tourner Elephant Man, dont il avait le rôle principal.
Attends, je vais faire un succès, je reviens.
Voilà, mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il a le temps de jouer Elephant Man, de se grimer, parce que ça prend un temps infini, parce que d'un seul coup, il va se mettre à tourner des scènes sans acteurs, par exemple, parce qu'il est fasciné par eux. C'est ce qui fait aussi la qualité du film. C'est-à-dire que ça reste un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Simplement, si on parle d'un point de vue purement économique, c'est aussi un des plus grands désastres.
Le montage aussi fut compliqué. Pourquoi ?
Mais le montage est compliqué puisque déjà, lui, il installe quasiment un garde du corps un peu armé pour s'assurer que les studios, les patrons des studios ne rentrent pas. Ce qui rassure assez peu les patrons des studios quand même, logiquement, qui sont aussi inquiets. Ils n'osent rien lui dire parce qu'il dit il est tellement dingue qu'à un moment il peut brûler la pellicule aussi, parce qu'à ce moment-là c'était de la pellicule. La première version, c'est un petit court-métrage, ça fera 5h25. Voilà, 5h25. On peut dire que...
Pas tout à fait adapté.
On peut dire que c'est pas sûr que ça marche. Mmh. Du coup, la sortie, on va essayer de négocier, on va tomber à 3h et tout ça. En tous les cas, on a l'impression que les studios font tout pour le sortir un peu en catimini, pour que ça sorte totalement des écrans, pour qu'on puisse lui dire, reviens tourner, reviens faire ton montage.
Et en fait, au final, Michael Cimino, il brûle pas la pellicule, mais plutôt le studio, carrément, c'est ça ?
C'est ça. Donc, Unité d'Artiste, c'était un studio très symbolique, parce que c'était un peu le studio des acteurs dans les années 30. Il allait déjà très mal. Hein. Tout le monde avait quasiment été viré dans les années 70, ils étaient à la recherche en fait de leur parrain, de quelque chose, d'un film qui relance. Bon ben là ça n'a rien relancé, le studio va fermer ses portes 2 ou 3 ans après et Cimino va être blacklisté jusqu'en 85, l'année du dragon, et plus jamais il ne leur fera un succès. Son dernier film, puisqu'il est mort récemment, c'était 96, Sun Chaser.
Alors ce qui est intéressant dans le cinéma américain, on peut trouver ça un peu trop mercantile d'ailleurs, c'est que on calcule le box-office en millions de dollars, en fait. C'est pas en nombre de spectateurs, c'est combien un film rapporte. Donc là, c'est clair, on peut vraiment juger d'un bide ou d'un succès. Pour le film de Cimino, vous vous souvenez des chiffres ?
Le budget, c'est 44 millions de dollars de l'époque. Oui. Le box-office, c'est 3 millions.
D'accord. Ça s'appelle, un fiasco financier.
Fiasco. Et à plus à l'époque, c'est-à-dire que là, la critique s'est rattrapée parce que il n'a pas vraiment été soutenu par une grande partie de la critique. C'est sur le tard qu'il l'a été. Et quelques années avant sa mort, il est allé au Festival Lumière, cher à Thierry Frémaux, le dégagé général du Festival de Cannes.
On le salue d'ailleurs.
On le salue exactement. Et il a eu un accueil absolument fabuleux. Et c'était, je pense, pour lui très émouvant de voir cette grande salle Lumière à Lyon enfin acclamer son film.
Une version restaurée de 3h et quelques.
Voilà,
c'est ça,
qui était sa version à lui.
Est-ce qu'on peut trouver une solution ? Est-ce que les studios cherchent une solution pour que les films soient absolument réussis ?
Réussi, c'est compliqué. Qui marche ?
Rentable. En tout cas.
Alors, ils essayent. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette politique d'essayer de faire des films avec des suites. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films Marvel avec les super-héros. On essaie de faire des remakes de la même manière parce qu'il y a cette idée de se dire au moins on n'a pas à faire le marketing sur le nom du film. C'est connu, des gens iront. Simplement, on s'aperçoit que tout ça est en train d'année en année de faire de moins en moins d'entrées. Et les films continuent à coûter cher. Un, parce qu'ils sont fabriqués. Deux, par le marketing. Et donc, ils essayent mais ils n'y arrivent pas.
Et j'ai lu aussi, mais on va pas avoir le temps de développer, mais qu'il y a des informaticiens qui cherchent un logiciel, une start-up anglaise qui propose là. Ça s'appelle quoi ? Epagogix, je crois.
Oui, en fait, on rentre toutes les données des films qui ont marché et on essaye de trouver une espèce de quadrature du cercle pour savoir ce qui peut marcher. Simplement, on rentre toutes les données. Donc, entre une comédie romantique, un film noir et un film d'angoisse, il n'y a aucun rapport. Donc, comment faire une moyenne ?
Merci beaucoup,
Thierry Chèvre. À suivre sur RTL, la vie des petites bêtes qui font peur, mais pas trop.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.